Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu.
Bonsoir,
chers amis. Au sommaire ce soir, le pouvoir d'achat, des écrans plats, une exception et des petits loulous.
Vous êtes dans une, auprès d'une famille ce matin qui se prépare à emmener les petits loulous, comme on dit, les petits loulous à l'école. Trop mignon.
Nos élèves ont tout simplement besoin d'école. Il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre.
La première femme noire d'origine africaine à devenir chef d'établissement à Paris.
Que je suis noire, ça se voit, c'est un fait.
Combien vous gagnez d'argent?
Vous m'amenez sur la question des salaires.
Et oui,
13 500.
Cette crise, elle a rebattu les cartes.
Sur le vinaigre, 15%. Sur l'huile d'olive, 11%.
Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Spectaculaire rebond de l'économie française en 2021.
Il faut être très précis, en particulier sur la question de la redistribution.
Nous sommes dans la bonne direction.
Et qu'est-ce que tu veux faire?
Président.
L'économiste Thomas Piketty et Madame la proviseure Maï Traoré sont ce soir nos invités, mais aussi Arnaud Ducré et Barbara Pravi.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi.
C'est sobre, c'est classe, ça se démarque.
Sans comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle.
Jusqu'où ça va aller? Tu crois que tu pourras raconter n'importe quoi comme ça?
Quand j'étais petite, je faisais de la natation.
Dans ma famille, on n'est pas des alcools.
Voilà, voilà, voilà.
On est des bons vivants.
Je suis comme ça, j'ai envie d'y aller.
Ça y est, on reprend les répétitions.
Elle n'a qu'une hâte, monter sur scène.
On a hâte aussi, rendez-vous avec nos invités après 20h autour du dîner XXL préparé par Abdel Alaoui. Indice Abdel, on est jeudi, du brocoli, de la pâte de riz. Voilà. C'est un poème ou de la cuisine que vous nous faites?
Non, c'est de la cuisine.
C'est de la cuisine. Un poème, peut-être en hommage à notre invité. Bonsoir Thomas Piketty, qui rime avec brocoli. Merci de votre présence ce soir, alors que vous publiez en cette rentrée une brève histoire de l'égalité, un condensé de vos travaux précédents. 336.
Il y a des choses nouvelles un petit peu.
Il y a des choses nouvelles, mais en fait, 336 pages tout de même, mais précédemment c'était 624 pour clivage politique et inégalité sociale, 1248 pour capital et idéologie. C'est parce que vous avez pitié de vos lecteurs ou parce que c'est tout simplement une séance de rattrapage pour les nuls?
Alors d'abord, 300 pages, mais il est tout petit. Hein. C'est-à-dire, c'est format poche. C'est-à-dire, si on avait fait le même format que capital et idéologie, on serait à peine 150 pages. Ah. Donc j'ai coupé 85%. Et en plus, il y a des choses nouvelles. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait un effort. Je me suis dit, il y a tellement de gens que j'ai rencontrés, de lecteurs, de lectrices, qui m'ont dit, bon, quand même, c'est super ce que vous faites, mais si vous pouvez faire plus court pour que je partage avec mes amis, ma famille. Donc là, c'est vrai que j'ai essayé de condenser. C'est un livre très accessible qui rassemble tout un courant de recherche internationale sur l'histoire des inégalités de revenus, de patrimoine, des inégalités de genre, des inégalités raciales. Il y a un immense travaux de recherche que j'ai essayé de synthétiser, qui, je pense, intéresse tout le monde, quelles que soient après les conclusions que chacun en tire. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé écrire ce livre. Ça m'a obligé à être plus bref. Et au passage, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'idées nouvelles qui viennent à force d'essayer d'aller à l'essentiel.
Donc, on va en parler longuement. Mais d'abord, Patrick a choisi de nous présenter un symbole du capitalisme financier et héréditaire, soit tout ce que vous détestez. Thomas Piketty.
Voilà, c'est un sujet britannique. Jacob Rees-Mogg, député conservateur, défenseur acharné du Brexit. Il est devenu le leader de la Chambre des communes et président du Conseil privé de la Reine, ce qui en fait l'un des plus hauts personnages du royaume. Et c'est une sorte de Boris Johnson, bien élevé, bien coiffé, mais en version ultra-réac.
Are you completely opposed to abortion in all circumstances?
Yes, I am.
Rape and incest?
Sexual violence?
I'm afraid so.
Really?
Life is sacrosanct. And begins at the point of conception.
Celui qui a gagné le surnom de Trump en haut de forme est aussi partisan d'un démantèlement de la sécurité sociale, mais il profère ses convictions avec une éloquence parfaite de gentleman, un calme inébranlable et un accent snob à couper au couteau.
What would you like to ask me about? What do you disagree with me about?
With everything you have to say.
Mention something specific.
Rights,
okay.
Women's rights.
You don't. Okay.
Austerity. So, everything.
Okay, but
you're
specifically.
A despicable person.
Well, we may disagree on things, but just because you disagree with somebody doesn't make them a bad person. The two are separate.
Voilà, je ne suis pas une mauvaise personne. Jacob Rees-Mogg, qui arbore invariablement costume croisé, montre à gousset, raie sur le côté et air de premier de la classe à l'arrière de sa Bentley, qui s'est vanté de n'avoir jamais porté un jean de sa vie, ni d'avoir changé la couche d'un de ses 6 enfants. Bref, une vraie tête à claque, si vous me permettez.
Ah oui, vous nous jetez les mots de la bouche.
C'est que Céclina vient d'exhumer une perle, un reportage de la télé française d'il y a 40 ans, où l'on découvre que le jeune Rees-Mogg était déjà une tête à claque. Le petit Jacob a 12 ans et il pose à l'arrière de sa Rolls.
I love money. Always have done.
buy because you need money, and with money you can make more money. You can't live without money. You can't do anything if you haven't got money. And if you've got money, you can buy things that you want. I could buy this Rolls Royce, something like that. Lovely.
Il adore l'argent. Et Margaret Thatcher, à l'époque, Resmog est un héritier, il a grandi dans un château, mais la Rolls où il se pavane, là, c'est la sienne. Il explique dans la vidéo qu'il spécule depuis l'âge de 5 ans, qu'il dispose de 8 comptes en banque et sera bientôt millionnaire. On le voit suivre le cours de ses actions, donner des ordres d'achat et envisager tranquillement la suite de son existence.
When I'm 30, I'd like to be the managing director of GEC. And hopefully by the time I'm 70, when I'm 70, I'd love to become Prime Minister.
Why?
Why? Because at that age you can have made all your millions or billions and you've got plenty of money and you'll have time to spend on politics.
Alors, Jacob Rees-Mogg ne dirigera pas la CGE, qui a été absorbée, comme vous le savez, par Alcatel, mais il a été gestionnaire de fortune à la City pendant 25 ans, avant de créer son propre fonds d'investissement et d'amasser une fortune de plus de 100 millions de livres. Et il a bien failli devenir Premier ministre en 2018, en tentant de faire tomber Theresa May. À l'époque, il avait déposé une sorte de motion de défiance contre elle, mais il lui reste une vingtaine d'années pour parvenir à Downing Street.
Ça vous laisse sans voix, ouais. Non,
mais derrière ça, il y a un truc plus général sur le Royaume-Uni et le Brexit. C'est, on a beaucoup parlé de l'électorat populaire qui avait voté pour le Brexit, mais en fait, si on regarde le financement de la campagne du Brexit, la finance, et en particulier la finance la plus dérégulée, ce qu'on appelle les hedge funds, toute la finance un peu New Age, en fait, a vraiment financé le Brexit. C'est-à-dire que les banques classiques avaient plutôt envie de rester en Europe. C'est vraiment intéressant. C'est à l'intérieur du monde de la finance britannique, il y avait vraiment une coupure entre le nom et Louis. Et en fait, ceux qui ont financé le plus en masse ont financé le Brexit,
c'est qui au final. C'est paradoxal parce que le Brexit est en train de faire dépérir la City.
Alors,
de Londres. Hein.
Pour la banque traditionnelle, oui, mais pour une espèce de finance dérégulée, offshore, qui ne s'intéresse plus à la grande banque généraliste, mais qui veut simplement pouvoir spéculer sur des marchés le moins régulés possible, des dérivés sur matières premières, des dérivés d'actions, enfin, toutes sortes de produits financiers compliqués pour gérer des fortunes privées. Ceux-là ont financé massivement le Brexit, typiquement. Ça va au-delà de l'anecdote.
Mais il symbolise cette catégorie de riches, décomplexés, déconnectés de la réalité, un héritier, et c'est ce qu'il y a de plus inégalitaire. C'est au cœur de votre travail ce que symbolise
oui, mais moi je cherche pas, je veux pas caricaturer non plus les gens parce que je pense.
Lui est une caricature.
Ah ben voilà, c'est ça. Lui, il est tellement caricatural, c'est trop facile. Ce qui est plus intéressant, c'est justement quand les choses sont un peu moins caricaturales. C'est-à-dire, moi j'essaye d'expliquer dans mon travail et dans cette histoire de l'égalité que voilà les différentes conceptions du bien public défendues par les uns et les autres ont toujours un fond de plausibilité. Bon, lui, il défend vraiment son truc à lui. Que souvent, les plus riches ont un discours plus sophistiqué qui va consister à dire, bon, OK, je suis riche, mais c'est pas simplement voilà, pour le plaisir d'écraser les pauvres. C'est parce que c'est dans l'intérêt général, ça fait plus d'innovation, etc. Ce qui, parfois, peut être en partie vrai. Sauf que ce discours est souvent extraordinairement exagéré. Et moi, ce que j'essaye par rapport à ça, c'est de mettre de l'histoire dans tout ça. C'est-à-dire que la nouveauté dans mon travail, si vous voulez, les écarts entre les pauvres et les riches, on en parle depuis toujours. Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Platon, déjà, disaient il ne faut pas que ça dépasse 1 à 4, les écarts. La nouveauté, là, c'est que pendant longtemps, on n'avait pas de données pour comparer vraiment les sociétés, les évolutions. Là, depuis 20-30 ans, on a pu rassembler, avec plus d'une centaine de chercheurs dans le monde, grâce aux nouveaux outils digitaux, dans les archives successorales françaises depuis la Révolution française, aux États-Unis, mais aussi en Inde, en Chine, on a rassemblé énormément de données qui nous permettent, non pas de tout savoir, mais au moins d'en savoir quand même un peu plus qu'avant. Et donc on peut comparer dans le temps différentes sociétés, on peut voir jusqu'à quel point ces arguments consistant à dire « Ah, plus d'inégalités, ça va quand même permettre l'innovation, la croissance, donc c'est dans l'intérêt général », on peut un peu tester ce genre d'affirmation.
Et non, ça n'a pas fonctionné.
Ça dépend jusqu'à quel point, mais en tout cas...
Parce que les richesses sont quand même mieux partagées aujourd'hui.
Alors, moi, j'insiste, c'est un livre optimiste. C'est-à-dire que j'insiste que dans le long terme, il y a un mouvement vers l'égalité. Mmh. Et que ce mouvement vers l'égalité, non seulement il a eu lieu, mais il a complètement accompagné la modernisation et la prospérité de nos sociétés. C'est-à-dire que, en particulier, l'accès beaucoup plus égalitaire à l'éducation, la réduction des écarts, vous savez, les écarts de fortune en France avant la Première Guerre mondiale du XIXe siècle, c'était considérable. Ça a été réduit considérablement et, en fait, ça a beaucoup aidé la croissance de l'après-guerre. Alors, ça a remonté depuis les années 80-90, mais même depuis les années 80-90, sur d'autres dimensions des inégalités, les inégalités de genre par exemple, les inégalités entre pays pauvres et pays riches dans le monde, alors c'est pas général, mais il y a quand même un certain mouvement vers l'égalité qui s'est un peu poursuivi, et moi j'essaye surtout, oui. dans ce livre, le but c'est pas de simplement de se satisfaire de ce mouvement vers l'égalité, c'est pas de dire voilà tout va très bien, c'est plutôt d'essayer d'apprendre de ce mouvement pour voir comment ça s'est produit, quelles sont aussi les luttes sociales, les mobilisations politiques qui ont permis ça, et quelles sont les institutions légales, éducatives, fiscales, électorales, sociales, parce que les rapports de force, les luttes sociales, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des débouchés institutionnels pour changer vraiment l'organisation de la société. Et c'est ça qui a marché.
Aujourd'hui encore, si on regarde, la majorité des riches sont des riches de naissance, des héritiers.
Des héritiers.
Oui, alors, attendez, il suffit pas d'être un nouveau riche pour que ce soit parfaitement justifié. Mais si vous voulez, les oligarques russes, ce sont tous des nouveaux riches, parce que par définition, ils n'ont rien hérité de l'époque soviétique. Est-ce que pour autant, ça rend l'inégalité russe des fortunes acceptable ?
Non.
Donc, c'est vrai que l'héritage, c'est particulièrement injuste pour ceux qui n'héritent pas, et c'est vrai que l'héritage est très concentré. C'est-à-dire juste pour
les
donner,
déboucher et accéder à cette
pour
richesse.
Pour donner un ordre de grandeur. En France, actuellement, la moitié des enfants au sein d'une génération héritent, donc les 50% les plus pauvres au sein d'une génération héritent de moins de 5% de tout ce qui a hérité, et les 10% les plus riches des enfants héritent de près de 60% de tout ce qui
c'est
a hérité.
C'est pour ça que vous proposez.
Donc après, les gens parlent d'égalité des chances, oui. Mais on en est très très
oui,
loin.
Mais les héritiers vous diraient qu'ils ont dû restituer à l'État à peu près 40% de taxes et d'impôts
sur l'héritage,
de ce qu'ils ont hérité, oui.
Alors c'est plutôt 5% en moyenne, l'impôt sur les successions.
En moyenne,
hein. Oui.
Mais sur dès qu'on passe à un certain niveau, c'est 40%.
Hein. Alors si vous avez 1 milliard et que on ne vous a pas fait l'optimisation fiscale qu'il y avait avec, éventuellement, vous avez payé 40%. Il vous restera quand même 600 millions. Hein
donc, oui, non, et juste quand même, oui, mais à la troisième génération, il ne reste plus grand-chose.
Oui, donc, il faut tout quand ça, même trois générations.
Tout ça, oui, mais tout ça pour dire qu'on aime beaucoup parler de l'égalité des chances d'un point de vue théorique, mais quand on fait des propositions, moi j'ai essayé de faire des propositions de dire, non mais attendez, ce serait bien que tous les enfants à 25 ans puissent avoir, bon j'ai parlé de 120 000 euros
un héritage minimal
qui, par rapport à ce qui serait encore très loin de l'égalité des chances, puisque dans le système que je propose, ceux qui actuellement reçoivent zéro, c'est en gros les 50% des enfants qui reçoivent zéro ou presque seraient à 120 000, ceux qui actuellement reçoivent 1 million dans le système que je propose, recevrait 600 000. Donc on a encore un très grand écart. Hein. Mmh. On est très loin de l'égalité des chances. Et là, tout le monde, ça inquiète tout le monde. Dit, oh là là, mais ces enfants de pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent? Ils vont faire que des bêtises. Comme si les enfants de riches faisaient toujours des choses intelligentes avec l'argent qu'ils reçoivent. Donc moi je ne suis pas contre qu'on mette des contraintes sur ce que vont faire les uns et les autres, hein, mais à condition que ça s'applique à tout le monde, y compris aux enfants de riches. Donc l'héritage est très concentré et très injuste. Mais je voulais quand même dire que voilà, il suffit pas que la fortune soit nouvelle, les oligarques russes, pour que ce soit juste. C'est-à-dire que les injustices dans la répartition, la concentration de la fortune, ça s'applique, sont très fortes dans tous les cas.
Est-ce que je peux vous ramener pour les quelques minutes qu'on a à des considérations plus terre à terre qui concernent le pouvoir d'achat des Français? Deux questions en cette rentrée. Le retour de l'inflation, il y a un risque en tout cas, les prix repartent à la hausse avec sur fond de reprise de la consommation et de l'économie. Et puis les salaires, la hausse des salaires, et là-dessus, vous allez le voir dans le nouveau magnéto qu'on avait prévu, le deuxième, gouvernement et patronat se renvoient la balle sur la question des salaires.
Il faut se reposer la question de la meilleure rémunération. Ça peut passer par les salaires, ça peut passer par les primes, ça peut passer par l'intéressement, la participation.
Je ne sais pas si c'est au ministre de l'économie de décider les salaires. On est encore en économie de marché.
Moi, j'aime bien quand on me dit que ce n'est pas au gouvernement de fixer les salaires. Très bien. Enfin, on est quand même bien content. Quand le gouvernement a permis d'augmenter en moyenne de 170 euros le montant du SMIC.
Ce qui est clair, c'est qu'on sent qu'il va falloir augmenter les salaires. Mais évidemment, c'est à chaque entreprise avec son modèle.
Vous avez un mode d'emploi, vous, pour augmenter les salaires?
Alors, on a le problème, c'est les bas salaires et les moyens salaires. Hein. Ce n'est pas forcément augmenter les salaires de cadres dirigeants ou de professeurs d'université comme moi. Le problème, c'est les bas et les moyens salaires. Et là, il faut quand même se rendre compte que la majorité des Français ont quand même des très bas salaires. C'est-à-dire, le SMIC net, actuellement, c'est 1200 par mois. Le salaire médian, c'est 1900, ce qui veut dire que la moitié des Français sont entre 1200 et 1900, si vous êtes à plein temps. Or, il y a beaucoup de gens qui voudraient un travail à plein temps, qui trouvent à 4 cinquièmes. Et là, le salaire médian, si vous prenez tout le monde, est plutôt à 1600, 1650. Donc, c'est-à-dire la moitié des Français qui travaillent sont en dessous. Donc là, on est sur des rémunérations très très faibles qui posent des problèmes même aujourd'hui de recrutement. C'est-à-dire que dans la restauration, dans l'hôtellerie, on voit parler de beaucoup de problèmes de recrutement. Donc c'est un problème social, mais c'est aussi un problème économique. Et je pense qu'on est dans une phase là où, vu les taux d'intérêt à zéro, vu les capacités d'emprunt des États avec la Banque Centrale Européenne qui met sur son bilan tranquillement tout ce que les États empruntent, ce serait une erreur d'arrêter la relance. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin, surtout dans des secteurs, vous voyez, il y a des secteurs où c'est aussi une nécessité écologique, c'est-à-dire sur la rénovation thermique des bâtiments, on pourrait faire un plan d'investissement beaucoup plus massif qui, au passage, créerait des emplois qui sont des emplois non délocalisables, qui sont des emplois peu ou moyennement qualifiés sur lesquels il faudrait aussi payer des salaires correct pour attirer le nombre de personnes dont on a besoin pour accélérer vraiment sur la rénovation des bâtiments. Mais ça concerne, bon, je citais l'hôtellerie-restauration, la santé. Vous savez, on a beaucoup parlé du Ségur de la santé. En fait, si vous regardez, même après le Ségur, les rémunérations des soignants, des infirmiers, des infirmières qui ont eu des conditions de travail terribles, et ça va continuer là, dans les mois qui viennent, les rémunérations restent très très faibles.
Les enseignants, si on ne les augmente pas, on ne recrutera plus dans ces domaines-là.
Alors, sur les enseignants, il y a des secteurs entiers de l'enseignement où il y a juste plus de candidats au concours. Pourquoi ? Parce qu'on gèle l'indice, le point de la fonction publique depuis 10 ans maintenant. Donc à nouveau, c'est pas le problème des hauts salaires, c'est pas le salaire des hauts fonctionnaires, des professeurs d'université, mais sur les salaires des professeurs des écoles, des professeurs du secondaire, des soignants. Oui, je pense qu'une partie de la solution passe par une relance salariale.
Est-ce que vous avez un espoir sérieux pour que dans la campagne présidentielle qui va monter en puissance, le débat sur l'actualité, sur l'égalité prennent le pas sur l'identitaire et le sécuritaire?
C'est très difficile parce que c'est vrai que le gouvernement actuel, si vous voulez, a pris une partie des électeurs, des élus du centre-gauche et les a amenés très très loin vers la droite sur le plan économique. Et donc, tout ce qui leur reste pour essayer d'avoir l'air populaire, entre guillemets, c'est de faire la course avec l'extrême droite sur les sujets identitaires. C'est-à-dire que sur tous les sujets de redistribution, justement, de réduction des inégalités, ils se sont fermés complètement la route parce qu'ils ont dit ça n'existe pas, la réduction des inégalités entre classes sociales, c'est pas quelque chose qui fait partie de nos objectifs, les premiers de cordée, etc. Et donc ça, je pense, cette droitisation de l'espace politique français, c'est en grande partie la conséquence du fait qu'on s'est fermé, effectivement, en grande partie, le débat social et économique sur la réduction des inégalités. En même temps, à long terme, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, on l'a bien vu sur les Gilets jaunes et plus généralement sur l'enjeu du réchauffement climatique. On ne va pas y arriver en faisant payer les plus modestes de la même façon que les plus riches, etc. C'est-à-dire là, quand je vois sur la taxe carbone, vous savez, il y avait eu juste avant l'été la présidente de l'Union européenne qui de la Commission européenne qui avait proposé une nouvelle taxe carbone à introduire, très proche de ce qui s'était fait en France, et même le gouvernement français disait ouh là là, les immolos, parce que nous on a essayé, ça s'est pas très bien passé, parce que de fait on va pas y arriver avec un système qui frappe les plus modestes, enfin les salaires de 1 000 euros, de la même façon que ceux qui ont 5 000 euros, 10 000 euros, puis ceux qui ont des yachts et qui font du tourisme spatial et qui font des jets privés, puis qui en même temps donnent des leçons au reste de la planète avec des théories délirantes sur la géo-ingénierie qui va tout régler. Ça, je pense qu'à un moment, ça ne va plus faire rigoler personne. C'est-à-dire que quand des catastrophes comme on a eu cet été vont s'étendre, parce que malheureusement, c'est ce qui va arriver, je pense que, pour répondre à votre question, la demande d'égalité et de réduction de ces écarts extravagants de niveau de vie, que cette demande va monter. Alors, est-ce que ça va se produire dès 2022 en France? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, moi, j'essaye de me situer aussi dans une perspective de
mobilisation.
De mobilisation et de long terme.
Parler de 2050, point d'arrivée possible pour la société dont vous rêvez.
C'est-à-dire, moi, je regarde comment les choses ont changé. C'est-à-dire, vous savez, on dit le capitalisme, on ne peut pas le changer, sauf qu'en fait, les sociétés, disons, social-démocrates, avec tout un État-providence, entre 40 et 50% des richesses qui est socialisée qu'on a aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme de 1910, qui était en plus colonial, très, très autoritaire. Enfin, le système aujourd'hui, si on voit tout ce qui s'est transformé entre 1910 et 1980, oui, 2050, vous savez, les choses changent beaucoup plus vite qu'on le croit parce qu'il y a une demande de justice, une demande d'égalité qui s'exprime parfois de façon un peu confuse, sans débouché précis, mais qui à la fin fait son chemin dans l'histoire, enfin tout cas, c'est le message optimiste que je
que vous délivrez dans cette brève histoire de l'égalité. Qui est très brève. Oui, une brève histoire, mais complète, de l'égalité, signée Thomas Piketty aux éditions du Seuil. Vous restez avec nous, on va évoquer l'actualité jusqu'à 19h50 avec vous. Tout de suite, c'est la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Babette.
Votre story du jour rappelle que le cyberharcèlement est tout sauf virtuel.
Quand le harcèlement sur les réseaux sociaux se transforme en une agression dans la vraie vie, c'est l'histoire qu'a vécue la jeune Lucille, influenceuse sur les réseaux sociaux. Le 13 août 2021, cette jeune femme poste sur Twitter l'enregistrement d'un homme, des menaces de mort, des menaces de viol, d'égorgement. L'homme en question se dit intouchable et ne craint pas la justice.
C'est à ce moment-là que je décide de faire le trait de Twitter parce que je vois que la police, elle me prend pas vraiment au sérieux, ça avance pas vraiment. Et quand il me dit ça, je sais qu'il est vraiment déterminé et qu'il va pas s'arrêter. Je le prenais pas vraiment au sérieux, je pensais que c'était un faux compte ou que c'était pour rigoler. Après, quand il m'a envoyé les messages en me disant qu'il se ferait jamais attraper, qu'il lui arriverait jamais rien, là j'ai commencé à le croire. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide, ça faisait que 2 jours que j'étais rentrée et... Je m'attendais vraiment pas.
Tout Twitter se saisit de cette affaire en contactant la police et sur les réseaux sociaux et certains membres du gouvernement. Certains internautes se rendent même chez l'agresseur pour lui régler son compte avant que la police n'intervienne pour éviter un drame. Marlène Schiappa, en exclusivité pour cet aveu.
Moi, j'ai avant tout peur pour ces personnes. Et avant tout, je ne me trompe pas de victime. Il y a des personnes qui sont victimes de ces faits. Et ensuite, bien sûr, j'appelle à ce que dans ces cas-là, il n'y ait pas un emballement contre-productif sur les réseaux sociaux. Donner les adresses personnelles des personnes sans prendre à des proches ou à des membres de la famille des personnes mises en cause, ça ne fait pas avancer l'enquête. Si vous êtes dans un état de droit, il y a des dépôts de plainte et ensuite la justice fait son travail et doit condamner les personnes qui sont mises en cause.
Dans la foulée, l'homme est placé en garde à vue avant de passer en comparution immédiate. Il écope d'une peine de 2 ans de prison avec sursis. Quelques jours après les faits, rongé par la haine, il se filme avec un couteau dans les rues de Paris. Il est même repéré devant la maison de la jeune Lucille.
La première fois, en fait, je l'ai pas vraiment vu devant chez moi. J'ai vu la voiture passer, mais je pense que c'était son ami, vu qu'il a été localisé dans ma ville après par la police. Mais je suis rentrée chez moi vite, limite en courant. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi et c'est tout. Et après, quand il était avec mes amis, moi, je ne l'ai pas vu du coup.
Le témoignage de Lucille a entraîné d'autres prises de parole, notamment chez les victimes. L'une d'elles évoque même 6 ans de harcèlement sur les réseaux sociaux. Lundi 30 août, l'homme est finalement inculpé et condamné à 8 mois de prison ferme après avoir agressé un ami de Lucille dans la rue.
Pour être une personne qui, là, en tant que citoyenne, régulièrement dépose des plaintes, etc., je peux dire que 8 mois de prison ferme, c'est plutôt dans la fourchette haute de l'habituel. Je ne dis pas ça en portant un jugement de valeur, je vous donne des informations, première chose. D'autre part, il y a les réseaux sociaux qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et je suis désolée de le dire, mais on ne serait pas aujourd'hui à ce stade-là si Twitter avait décidé et si les différents réseaux sociaux avaient décidé de bloquer les comptes de cette personne.
Aujourd'hui, Lucille se dit apaisée de le savoir derrière les barreaux, mais elle craint cependant que les agressions ne reprennent à la sortie de prison de son harceleur. On rappelle qu'il sort dans 8 mois. Quand on voit ces faits, Thomas Piketty, on imagine qu'il y a une profonde indignation sur toute cette société qui est de plus en plus égoïste, mais surtout de plus en plus violente sur les réseaux sociaux.
Oui, mais je pense que les pouvoirs publics devraient beaucoup plus prendre le contrôle des algorithmes, des plateformes, dès lors qu'elles touchent un trop grand nombre de personnes, enfin qu'elles touchent une très grande proportion de la population. Laisser les plateformes décider elles-mêmes à quel moment elles bloquent un compte, elles ne le bloquent pas, je pense que c'est pas possible. Donc après, il faut définir des procédures très strictes, mais ça ne peut pas appartenir à un actionnaire ou un petit groupe d'actionnaires de façon opaque de savoir à quel moment et sur quels critères on bloque. Là, on a vraiment besoin que les pouvoirs publics... Enfin, sur ces questions de harcèlement, mais aussi plus généralement de l'influence politique des réseaux, de tout l'effet que ça a aujourd'hui sur la formation de l'opinion, il y a une absence de régulation qui peut pas durer.
On rappelle depuis le drame terrible de l'assassinat de Samuel Paty que la loi de la mise en danger d'autrui a été renforcée. Donner l'adresse de quelqu'un sur Internet, eh bien, c'est pénalement répréhensible de 15 000 euros d'amende et voire même d'1 an de prison.
Merci beaucoup Mohamed, c'était la story du jour. C'est la rentrée aujourd'hui pour plus de 12 millions d'élèves, la deuxième rentrée sous Covid, mais Émilie, un virus peut en cacher un autre.
Et oui, il n'y a pas que le Covid qui circule dans la cour de récré, il y a aussi les préjugés. Et cela préoccupait déjà David Pujadas dans son 20h, c'était en 2015.
Beaucoup entendu parler ces dernières semaines de la mixité, mixité sociale, mais aussi mixité garçon-fille.
Autour du terrain de sport, c'est le lieu de toutes les convoitises et de pouvoir, rarement au profit des filles.
Ils nous disent d'être remplaçante. Moi, j'avais pas envie d'être remplaçante.
Il y a des jeux de filles que nous, on a envie de faire et qui décident.
Ah oui ? Lesquels ?
Je sais pas.
Le ballon prisonnier ? Le ballon prisonnier ? La tomate ?
On va être trop sur le terrain, on va pas pouvoir jouer.
Donc en fait, les filles, c'est uniquement quand il y a de la place.
Voilà.
Voilà. Les garçons ont besoin de se défouler, ils ne veulent pas jouer avec les filles, elles préfèrent bavarder ou les petits jeux. Ce sont des idées reçues vieilles comme l'école, qui se transmettent d'ailleurs dès la maternelle et de génération en génération.
Une étude montre que les enseignants et les enseignantes tolèrent beaucoup moins l'agitation des filles, qui est prise comme une attaque personnelle de l'enseignant, et par contre tolèrent tout à fait l'agitation des garçons.
Mais attention, ces problèmes pointés du doigt en 2015 sont déjà une énorme avancée. Il faut comprendre, les parents dont parle cette enseignante, eux-mêmes jouaient dans la cour de récré dans les années 60. Des cours où quand on était une fille, on ne croisait pas de garçons, vice-versa. L'idée même d'ailleurs que la cour de récré soit mixte était inimaginable.
Souhaiteriez-vous faire vos études dans un lycée mixte ?
C'est-à-dire que sentimentalement, oui, mais ma raison s'y refuserait plutôt.
Dans un lycée de filles, c'est très renfermé, ça a l'air d'un couvent. Les filles sont toujours en train de se bagarrer. On est tout le temps en train de se faire des chicanes.
Il n'y a pas une bonne ambiance dans la classe, étant donné qu'il y a des filles et des garçons, d'abord. Et en général, le professeur est pour les filles.
En la maternelle, il y a filles et garçons. Arrivé en primaire, il y a la séparation entre filles et garçons. C'est un peu dommage, je pense.
Peut-être manqué un. Hein. Heureusement, ces propos appartiennent au passé. Enfin, un passé pas si lointain, puisque la mixité n'est devenue le régime normal qu'en 1965 et a été généralisée 10 ans plus tard. Depuis, les inégalités, la mixité, les termes eux-mêmes ont changé. Désormais, on parle de diversité et de cours d'école non genrés. Fini le grand rectangle de bitume qui prend tout l'espace pour jouer au foot et qui ne sert qu'aux garçons. Adieu, les filles reléguées dans les coins ont... végétalise, on crée des petits espaces et on impose le mélange. Le sujet a mis du temps à émerger, mais il devient à la mode et dans de plus en plus de communes, Trappes, Lyon, Rennes, Bordeaux, Grenoble ou M dans le Nord.
Dans la cour de son école, tout a changé. Une des cages de foot a été retirée, le terrain réduit. Place à des espaces de convivialité et des aires de jeu pour s'amuser différemment et surtout ensemble.
L'idée, c'est essayer de redonner un espace aux filles dans nos écoles. On est dans des quartiers populaires, hein, voilà, donc il faut absolument, dès le plus jeune âge, apprendre à vivre ensemble.
Voilà, donc l'idée, ce serait de révolutionner la cour de récré pour faire avancer la société.
Bonsoir Maï Traoré.
Bonsoir.
Vous êtes la proviseure du lycée polyvalent Lucas de Nou, dans le 5e arrondissement de Paris. Vous avez fait ce matin votre deuxième rentrée à ce poste et vous publiez « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Un livre qui fait le récit des micro-agressions racistes auxquelles vous avez dû faire face tout au long de votre parcours. Mais vous ne vous plaignez pas, vous auriez pu être une femme. Clin d'œil à Ray Charles qui disait « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi, j'aurais pu être noire ». Le sexisme, c'est une autre discrimination et on l'a vu, ça commence dans la cour de récré. C'est aussi pour les jeunes filles d'ailleurs que vous écrivez, pour les encourager à ne se laisser enfermer dans aucun schéma de pensée.
Voilà, à être libre, voilà. C'est des jeunes filles libres, indépendantes, qui s'assument, qui ne se mettent pas de barrières, d'obstacles et qui sautent des haies. Donc des obstacles de la vie, des obstacles de tout ordre, hein, de tout ordre qu'on pourrait rencontrer donc dans le cours de sa vie, au sein de l'établissement scolaire. Voilà.
Vous-même, vous vous êtes beaucoup auto-censurée, vous avez réduit certaines de vos ambitions?
Oui, il y a eu un moment où je n'osais pas, ce qu'on dit, ne pas oser. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de bruit, il faut être à sa place, ne pas trop déranger, ne pas... et taire ses ambitions. Voilà. Donc ça m'a... J'ai eu plusieurs périodes comme ça de ma vie, et puis à un moment donné, je me suis dit, stop, il faut se réveiller, il faut s'assumer. Et puis surtout, il faut y aller, il faut vivre, il faut être libre.
Et vous êtes devenue, vous vous présentez comme ça, la première femme noire à devenir proviseur dans un lycée parisien. Ça prouve que c'est possible, mais pour en arriver là, il vous a fallu déployer un travail considérable, une volonté constante. Vous êtes passée par tous les postes, surveillante en zone défavorisée, professeur contractuel, CPE, proviseur, vous avez passé tous les concours. Et pourtant, c'était tellement improbable de voir une femme de votre âge et de votre origine à un tel poste, qu'on vous a soupçonné de favoritisme?
ce que je disais, c'est des chaînes de pensée. Oui, ce sont des petites méfiances, puisqu'on ne vous attend pas là où vous devez être.
C'est pas possible, vous êtes pistonnée.
C'est étonnant, c'est étonnant. Mais vous savez, nous, les femmes, toutes les femmes sont souvent soupçonnées de cela. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je décris ça, il faut en sortir.
Et vous répondez, oui, bien sûr, j'ai couché pour avoir ce poste.
Ça peut arriver d'avoir cette réponse pour faire taire.
Pour faire taire ce genre de soupçon. Vous racontez aussi
la méfiance, il faut, voilà, il faut le dépasser. Moi, je pense qu'il faut absolument s'autoriser maintenant, de tout temps d'ailleurs, à vivre ce qu'on a envie de vivre. Voilà. L'ambition, c'est pas un gros mot, hein, vous savez. Être ambitieux, c'est pas un gros mot du tout.
Malgré tout, vous racontez la condescendance au quotidien, presque banale, sans penser à mal.
Oui,
vous êtes jeune et noire, donc spontanément, on vous prend pour une secrétaire, vous demande de faire des photocopies alors que vous êtes proviseur adjoint. Vous êtes la seule à laquelle on demande ses papiers lorsque vous faites votre entrée dans l'établissement. Ou pire encore, votre supérieur hiérarchique vous présente et il n'a pas peur de dire « Cette année, je fais dans l'humanitaire en accueillant Maï Traoré qui vient du Mali, elle est mieux ici. » Sur le coup, vous riez. Mais oui, rétrospectivement, votre sang s'est glacé, quoi.
Oui, parce ils souhaitaient sans doute faire de l'humour. Voilà,
il faut rire, justement, à ces remarques.
Écoutez, il faut rire souvent pour ne pas, justement, pleurer. Mmh. Voyez. Donc, rions. Parce que si nous devons tout le temps, à tout moment de la journée, de la semaine, du mois, écouter, entendre et se dire « Oui, effectivement, ce qu'il dit de moi, c'est vrai. » Donc, je n'en sors plus, je reste dans un carcan, je me mure, je m'enferme. Il n'est pas question de cela. Donc oui, rire, mais ensuite, ce que je dis, faire acte de pédagogie.
Exactement.
Parce que c'est le cœur de mon métier.
Dire stop.
Dire stop et expliquer aussi, voilà, que déboulonner dans les esprits, déboulonner dans les neurones.
Ce réflexe de vous demander, vous venez d'où ? Mais vous venez d'où ? Mais vous venez d'où ? Une fois, ça va. Mais après, la répétition, c'est ce que vous appelez le supplice de la goutte d'eau.
Voilà, c'est Pape Ndiaye qui disait cela, absolument, c'est fréquent. Donc, je réponds que je suis suédoise. Et vous l'avez tous remarqué sur ce plateau, depuis mon arrivée, vraiment, j'ai été bichonnée et bien accueillie. Donc, merci.
Vous qui cherchez l'éveil de l'esprit, des consciences et de l'ambition chez les jeunes étudiantes, vous allez voir que les quelques étudiantes rencontrées devant l'établissement que vous dirigez sont bien dans l'esprit.
C'est inspirant d'avoir comme ça une proviseure qui écrit des bouquins sur des thématiques pareilles.
Ouais, franchement, c'est super.
Ça nous donne un bon coup au moral pour dire, bah, certes, on peut être différent, mais on peut toujours faire de grandes choses dans la vie.
De pouvoir poursuivre ses rêves, et même encore plus.
Qu'elle parle de sa condition de femme noire, moi, je peux rien dire là-dessus, mais déjà, de femme en tant que proviseur, déjà, et de femme noire en tant que proviseur, je trouve que c'est encore mieux d'en parler.
Elles sont bien, hein ?
Elles sont splendides, c'est les meilleures.
Elles auront toutes des super notes, vous avez relevé leur nom.
Je n'étais pas au courant de ça, donc...
Non, en vous écoutant tout à l'heure, je repensais à un truc qui m'était arrivé lorsque Obama avait été élu président des États-Unis. Le lendemain matin, dans un resto chico parisien, il y avait un conservateur noir et un monsieur est rentré, un blanc, et lui a dit « Aujourd'hui, nous sommes tous noirs ». Et lui a répondu « Nous, c'est tous les jours
». Ben voilà, toujours de l'humour. Rebondir toujours sur de l'humour.
Vous êtes noire, ça se voit, c'est
vrai,
fait.
C'est vrai,
oui,
c'est vrai. Parce que le dit, c'est ça, je ne sais pas en fait. C'est une question aussi.
Ça, hein. ça nous met, en tout cas, femmes. Ça vous met dans une catégorie, dans une communauté. C'est le communautarisme, c'est une notion à laquelle vous êtes beaucoup intéressée. D'abord parce que vous l'avez subie dans votre banlieue parisienne. On attendait par exemple que dans un collège, vous gériez vous-même les élèves noirs parce que vous sauriez comment leur parler. Mais vous avez eu vous-même des réflexes communautaristes quand vous revenez de Paris, et là vous êtes à la Sorbonne, et vous repérez comme ça trois copines,
voilà,
d'origine africaine
tout
comme vous,
fait.
Et voilà, vous appeliez d'ailleurs les Noiraudes pour rire.
C'est pas merveilleux les Noiraudes ?
C'est merveilleux.
C'est animé qu'on a tous connu.
Oui, absolument. Voilà.
La vache.
Donc,
mais vous dites que c'est naturel.
Allô, ici la Noiraude.
Vous dites que c'est naturel,
magnifique.
Mais vous dites qu'il faut lutter contre.
Oui, alors c'est naturel parce que c'est facile. Vous le savez bien, c'est facile. On a toujours peur de l'inconnu.
Mais c'est humain,
on a
surtout.
Toujours... Comment ?
C'est humain surtout.
Et c'est surtout humain.
Et
puis
ressent,
c'est, voilà, on a peur de l'inconnu. Donc on aime bien aller vers ces facilités-là. Et dans cette grande cour majestueuse de la cour de la Sorbonne, à Paris 4, à l'Université Paris 4, c'est vrai que cette cour, elle est belle, elle est grande. Et que sur la promotion des étudiants, la couleur n'était pas très arc-en-ciel. Il n'y avait pas tous les codes arc-en-ciel, n'étaient pas cochés. Donc voilà, donc pas de facilité. Mais après, on élargit ce panel. Il faut absolument élargir et sortir des carcans. Voilà. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de genre non plus, on est juste des humains. Et ça, c'est merveilleux.
Française d'origine malienne et proviseure, c'est possible. C'est signé Maï Traoré aux éditions Robert Laffont. Et une femme ministre de la culture, c'est ministre de la culture, de l'éducation nationale, c'est ça la prochaine étape.
Je ne suis pas candidate.
Non, vous n'êtes pas candidate. Bon, bonne rentrée.
Merci
à vous,
beaucoup.
Maï Traoré.
Merci.
Restez
beaucoup.
Avec nous, on va continuer à passer en revue l'actualité du jour. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu, au sommaire ce soir.
Ah Babette, bonsoir à toutes Mathieu. Et à tous. Bonsoir. Une rentrée scolaire très politique. L'allocation de rentrée scolaire sert-elle à acheter des écrans plats? Jean-Michel Blanquer était hué par des parents ce matin, c'est lui qui a relancé le débat en début de semaine. Le président annonce trois priorités pour Marseille, l'éducation, les transports et la réhabilitation des logements. Reportage, c'est à vous, les mal logés marseillais, trois ans après le drame de la rue d'Aubagne. Et puis un hommage ce soir, le compositeur Mikis Theodorakis s'est éteint à l'âge de 96 ans.
La rentrée des classes pour les enfants, et c'est une tradition, la rentrée des classes aussi pour le président et les ministres de l'Éducation nationale qui sont retournés à l'école.
Pourtant, la journée n'a pas très très bien commencé pour Emmanuel Macron, hué à son arrivée dans une école maternelle marseillaise. Quelques minutes avant, même foule, même école, Jean-Michel Blanquer.
Le ministre de l'Éducation qui a été en partie sifflé à son arrivée dans l'école Bouge, l'école élémentaire, où Emmanuel Macron se rend ce matin.
Siffler et huer le ministre de l'Éducation nationale.
Alors, on n'achète pas des écrans plats, vous l'avez lu, viens nous le dire en face qu'on achète des écrans plats, référence à un débat, très vieux débat, relancé dimanche par Jean-Michel Blanquer.
Il y a beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire.
On sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments.
L'allocation de rentrée scolaire sert-elle aux fournitures ou à acheter des télés? Écoutez ces parents d'élèves qui se trouvaient justement aux abords de l'école.
Vous savez combien ça coûte? Une boîte de fournitures pour toute l'année. Avec quoi on va l'acheter si ce n'est pas avec cette allocation?
C'est des familles pauvres. Je pense que avec quoi ils vont acheter les affaires scolaires s'ils achètent un écran plat?
Est-ce que vous touchez l'allocation de rentrée scolaire?
Oui, je l'ai touchée.
Qu'est-ce que vous avez fait avec?
J'ai nourri mes enfants.
Pour deux enfants, pour deux gosses, ça ne suffit même pas pour la nourriture. Quoi.
Donc vous n'avez pas acheté un écran plat avec?
Pas du tout, pas du tout. J'aimerais bien, mais c'est pas possible, quoi.
Voilà pour la réponse de parents d'élèves marseillais, mais le débat, vous l'avez dit, n'est pas du tout nouveau.
Ah non, c'est au moins aussi vieux que les écrans plats eux-mêmes. Tiens, j'ai retrouvé cette question à l'Assemblée nationale. En 2012, le jeune député UMP Gérald Darmanin suggérait de verser le montant de cette allocation aux établissements scolaires. De quoi parle-t-on? Alors, petit rappel tout de même, pour bien comprendre, l'allocation de rentrée scolaire est versée à 3 millions de familles sous conditions de ressources selon l'âge des enfants. Et écoutez Dominique Schelcher à la radio ce matin, c'est le président des supermarchés du Système U.
Je vois, le jour où la prime tombe, eh ben, d'un seul coup, on vend quelques télés en plus, quelques produits électroniques en plus, avant peut-être parfois les produits de rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale a raison.
Alors, ça ne dit pas qu'on n'achète pas de fournitures scolaires dans ces familles non plus, mais pour arbitrer, pour y voir plus clair, j'ai appelé Yves Puget, le journaliste spécialiste de la grande distribution au magazine LSA.
Moi, j'ai posé la question à un distributeur d'électrodomestiques, lui me l'a contesté. Le mois de septembre n'a jamais été le mois où il se vend le plus de téléviseurs. C'est bien évidemment Noël, c'est bien évidemment la période des soldes ou les événements sportifs comme l'Euro. Pour beaucoup de familles, il y aura moins de dépenses, je fais le petit pari, en rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que les enfants se sont moins déplacés à l'école l'année dernière. Donc il y a des parents qui vont dire, il y a encore du stock de cahiers, de crayons qui sont restés dans la maison, on va en acheter moins. Et contrairement à ce que disent ou Dominique Schelcher ou le ministre, je pense qu'il est impossible de le quantifier.
Alors Yves Puget qui m'a par ailleurs précisé aussi qu'avec les différents confinements, les fermetures des restaurants, quand on en a les moyens, on s'est plus rééquipé à la maison ces derniers mois. Mais ce débat n'est pas clos, de toute façon, il reviendra à la prochaine rentrée scolaire, soyez-en sûrs. Mais pour aujourd'hui, c'est le président lui-même qui a sifflé la fin de la récré.
Nous serions ou aveugles ou naïfs de penser que la totalité de ce que chaque ménage touche en allocation de rentrée scolaire est reversé pour acheter les fournitures ou les livres des enfants. C'est pas vrai. Après, il faut pas qu'on rentre dans un système de contrôle social où il y aurait une forme de défiance qui s'instaure à l'égard des familles. Il y a comme partout des gens qui font les choses comme il faut, puis il y a toujours des gens qui les font pas comme il faut et qui utilisent l'argent pas aux fins où ça leur est donné.
Alors, ni naïveté, ni stigmatisation, dit le président de la République. Ce débat, c'est quoi? C'est une stigmatisation des plus pauvres ou c'est une protection des enfants? Parce que ça doit leur revenir aussi.
Non, mais là quand même, ce qu'il vient de dire, il y a toujours des pauvres là, qui ne font pas comme il faut. Mais il a combien d'écrans plats, lui, dans ses salons à l'Élysée ou au fort de Brégançon? Non, mais c'est la même discussion que ce qu'on avait sur l'héritage tout à l'heure. C'est-à-dire que les plus riches, eux, ils peuvent dépenser leur truc n'importe comment. Là, il n'y a aucun contrôle, aucune discussion. Et là, des gens qui ont 1 000 euros, 1 500 euros par mois, on va aller leur chercher les poux, des noises, là, leur dire: ah non, attention, vous n'avez pas le droit d'avoir une télé.
Dire le contraire. Et vous allez me dire qu'il ne fallait pas aller chercher.
Bah, non, il a dit, non, attendez, Patrick Cohen, il a dit clairement: il y a des bons pauvres, il y a des mauvais pauvres. Il a dit: il y a toujours, il y a des gens qui dépensent. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est fondamental. Ah bah non, mais ça, là, il était très clair. Enfin, vous savez, il ne se refait pas. Hein. Il est comme ça. C'est-à-dire que son côté, il suffit de traverser la rue, il y a du boulot, etc. Là, il nous en refait un. Bon, franchement, s'ils veulent faire un truc à l'américaine, alors aux États-Unis, les aides aux plus pauvres, c'est des food stamps, hein, des bons alimentaires. Effectivement, ça a été assumé pour des raisons assez raciales, en fait, initialement. Mmh. C'est-à-dire pourquoi les États-Unis, c'est le seul pays à ne pas avoir de transfert monétaire aux plus pauvres et avoir des bons alimentaires? Parce que fondamentalement, une partie des blancs se méfiait des noirs, etc. Enfin, ça s'est construit historiquement sur une base raciale. Il se trouve qu'aucun pays européen ne fait comme ça, donne de l'argent sur des revenus aussi bas que ça, aller chercher des noises aux gens en disant: ah, quand même, vous avez une télé, hein, vous vivez dans le luxe. Non, mais bon, faut arrêter, quoi.
Un dernier mot de rentrée,
oui.
Thomas.
Alors, Mathieu. C'est une image qui va vous faire sourire, je le sais, c'est la rentrée, c'est pas facile, tout le monde a connu ça ce matin, il faut réveiller les enfants, il faut les habiller, il faut peut-être porter leur cartable, bon, un peu de stress quoi. Et quand vous arrivez à l'école, regardez, impossible d'y accéder, ces parents d'élèves du 12e arrondissement de Paris se sont lâchés sur Twitter parce qu'on a refait le goudron devant la porte de l'école, ce qui n'est pas un reproche ce matin, mais c'est compliqué de le faire aujourd'hui, le jour de la rentrée scolaire.
c'est
au moins cocasse. Et puis, par ailleurs, j'ajoute, dans l'actualité de cette rentrée, Emmanuel Macron l'avait promis aux youtubeurs McFly et Carlito. Ils posent avec un cadre de leur photo. Dans la même vidéo, quelques secondes après, une minute après, il a rendu hommage à Samuel Paty. À noter que sur les réseaux sociaux, certains ont peu goûté le mélange des genres.
Après la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a poursuivi sa visite à Marseille.
Hier, le président parlait de sécurité, de trafic, de délinquance et police, déplacement à l'hôpital de la Timone aujourd'hui, et son plan pour Marseille avec des annonces sur le logement. On est près de 3 ans après le drame de la rue d'Aubagne. 2 immeubles vétustes s'effondraient, vous vous en souvenez, en plein Marseille. 8 personnes avaient perdu la vie. Alors, il y a 2 heures, Emmanuel Macron a donné quelques détails de ce plan avec 3 priorités. Il parle d'urgence sécuritaire, sociale et sanitaire. Les priorités sont l'éducation, les transports et la réhabilitation des logements. Reportage, c'est à vous ce soir, sur place, auprès de Marseillais mal logés, Louis Amar et Audrey Payas.
Depuis le drame de la rue d'Aubagne, sur l'ensemble de la ville de Marseille, plus de 600 immeubles ont dû être évacués d'urgence parce que les habitants y couraient des risques imminents, parmi eux celui-ci. Vous avez eu un week-end pour emporter toutes vos affaires et quitter l'appartement.
Voilà, on a eu un week-end où ils nous ont dit, voilà, lundi matin, on vient et on clôture l'immeuble.
Et vous étiez à la rue à ce moment-là?
Ah bah complètement, bien sûr. T'es à la rue, ouais. T'es à la rue avec un enfant, terrible quoi.
Donc c'est ici, dans cet espace-là, que vous vivez à 3?
Oui, voilà. Oui. Ouais. Donc un 2 pièces, comme je vous ai dit, et plus cher que le précédent appartement. Ouais.
Et comment vous avez fait pour réaménager cet appartement pour qu'il soit vivable?
Bah en fait, il y a une des pièces qu'on a aménagée en divisant avec une bibliothèque, quoi. Donc, il fait un côté notre chambre et de l'autre côté la chambre de la petite. Donc, j'ai pris ce que j'ai pu trouver. Je trouve pas normal d'être comme ça, livrée à moi-même dans une situation qui est une situation d'irresponsabilité, des syndics, des propriétaires et effectivement où il y a une responsabilité des pouvoirs publics, quoi.
Alors sur cette carte, à présent, vous voyez les ménages évacués à Marseille, la localisation des logements aussi. Nous avons rencontré des membres du collectif 5 novembre. 5 novembre, c'est la date de la catastrophe de la rue d'Aubagne. Écoutez l'avocat du collectif.
En fait, il y a une grande partie des immeubles de gens qui souffrent de mal logement, qui sont pas, où on n'est pas encore au stade, vous voyez, où ça va, il y a ces fissures, où à ce point la structure est dangereuse, mais où quand même, en fait, il y a du mal logement, des infiltrations, des moisissures, etc. Et tout ça, on en arrive à une telle situation que, bah, même si maintenant il y a une tentative d'essayer de reprendre le dessus, on part au plus pressé, on évacue les gens, mais on n'a même pas la force et les moyens de faire les travaux nécessaires. Et là-dessus, on a eu effectivement beaucoup de promesses, y compris des promesses de la part de l'État, mais pour le moment, ça reste des promesses. Tout est difficile parce que tout devient, a pris des proportions qui sont gigantesques. Traiter un immeuble, c'est pas compliqué. Traiter, comme je vous l'ai dit, on est dans les 600 immeubles, c'est une autre paire de manches.
Ce plan pour Marseille, Thomas Piketty et Maï Traoré, Thomas Piketty La ville de cœur du président, des investissements massifs.
Mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai qu'aller faire ça à 8 mois des élections, c'est vrai que ça aurait été mieux en début de quinquennat. Et puis au-delà du fait, bon, c'est bien qu'on trouve une rallonge, que l'État trouve une rallonge pour Marseille, mais derrière, il y a un problème systémique qui est que les communes les plus pauvres ont beaucoup moins de moyens que les communes les plus riches pour financer les locaux des écoles, pour faire une politique du logement. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Heureusement, sur les salaires des enseignants, c'est pas comme ça, c'est-à-dire c'est centralisé. Mais les locaux, il faut bien voir que ça dépend complètement de la base fiscale de la commune. Donc si vous êtes dans une commune où le revenu moyen ou la base foncière moyenne est 3 fois plus faible qu'une autre, eh ben, vous avez 3 fois moins de moyens, parce que la dotation globale de fonctionnement, techniquement, c'est-à-dire ce qui est donné par l'État, c'est même pas 1/6 des ressources des collectivités locales.
On en parlait hier, si vous voulez, aux intercommunalités, normalement, aux métropoles de régler ça, et à
Aix-Marseille,
ça marche pas du tout, voire très mal.
Oui, mais parce que vous avez à nouveau des écarts de base de richesse entre communes, alors en région parisienne, entre les départements, qui sont considérables. Et ça, c'est le système de financement des collectivités locales, de fiscalité locale qui devrait revoir. C'est-à-dire, moi, je pense que chaque commune devrait avoir accès à une base moyenne par habitant qui est la moyenne nationale. Parce que derrière, il y a des services publics, normalement, de tous les enfants devraient pouvoir... Enfin, ça paraît évident de pouvoir accéder aux mêmes locaux en termes d'école. Mais tout ça est financé sur une base fiscale. Donc après, on peut mettre des rustines, faire une rallonge. C'est toujours mieux que rien faire. Mais voilà, de point de vue systémique, il faut aussi agir.
Maï Traoré, vous comprenez, d'ailleurs, on revient sur les images tout à l'heure, que Jean-Michel Blanquer ait pu être hué par des parents qui lui disent « Nous, on n'achète pas des écrans plats avec nos allocations de rentrée ».
Dans mon établissement scolaire, qui est le lycée du Vert, et tout à l'heure, vous l'avez cité, puisque vous avez envoyé des reportages pour voir un peu les élèves. Moi, je travaille surtout le verre et le vitrail. Et donc, les élèves ont un équipement, des outils, puisqu'on est dans la voie professionnelle, pour travailler vraiment dans les ateliers et créer. Donc, le vitrail, c'est un métier qui est séculaire, qui est ancestral, et qui est transmis vraiment petit à petit. Voilà, c'est une passion que de faire un travail de vitrail, de passer des heures dans les ateliers pour apprendre à créer un panneau, à faire du verre, de la décoration, de la sérigraphie. Donc ça, c'est la spécificité de mon lycée. Donc les élèves ont le matériel, ils ont les équipements, ils sont dans les ateliers, ils sont très heureux. Et surtout, ils sont là dans le savoir-faire, le savoir-vert véritable, qui fait partie de l'ADN de la France aussi, qu'est le vitrail et quelles sont la voie professionnelle et les métiers de l'enseignement de la voie professionnelle. Donc c'est très, très précieux pour nous que les élèves, d'entrée de jeu, donc aujourd'hui, nous les avons accueillis avec mon équipe. Ils ont déjà tous leurs équipements pour pouvoir effectivement travailler. Et c'est une chance au niveau donc, des voies professionnelles, du lycée polyvalent, puisque c'est la voie d'excellence aussi. Ce sont des métiers où lorsqu'on sort au bout de 4 ans, à la fin de son collège et qu'on rentre en CAP, première année, on arrive à apprendre un métier, un savoir-faire, une intelligence manuelle alliée à une intelligence intellectuelle et ensuite à s'installer à son compte. Donc ce sont des métiers qui forment, il n'y a pas de chômage. Donc j'invite aussi les gens à venir au lycée Lucas de Néou. Voilà.
Dirigé avec à sa tête Maï Traoré. On part aux États-Unis à présent, la tempête Ida continue de faire parler d'elle.
Alors le week-end dernier, on anticipait le pire en Louisiane avec le souvenir de Katrina, mais c'est à New York qu'on a été surpris. Ce que l'on appelle les restes de l'ouragan, la queue de comète, de fortes pluies se sont abattues sur la ville en pleine nuit, au moins 14 morts dans cet engloutissement, on peut le dire, de New York. Les images sont impressionnantes, conduisant les autorités d'ailleurs à déclarer un état d'urgence inondation. Ça, c'est une première. École fermée, transport à l'arrêt, métro submergé. Et si vous aviez aimé, c'est plus léger, les skieurs à Montmartre quand il neigeait ici, je vais ajouter cette petite image à présent. Certains se sont replongés en vacances. Voilà, le petit matelas pneumatique, voilà comment a passé...
Ça, c'est dans une rue de New York.
C'est un New-Yorkais qui passe la nuit avec ce matelas gonflable et cette chicha.
C'est mieux sur la plage.
De la côte est à la côte ouest, c'est la météo qui fait la une aux États-Unis.
Et c'est le contraste qui est impressionnant. Alors, je pense qu'à côté de notre petite goutte froide dont on parlait hier, les présentateurs américains, eux, sont au bord du burn-out. Un vrai contraste aux États-Unis, la sécheresse californienne de l'été. Les incendies, surtout, comme ce Caldor Fire, c'est ainsi qu'il s'appelle, il a pris à la mi-août, incontrôlable. Cette semaine, autour de la zone touristique du lac Tahoe, 20 000 personnes ont dû être évacuées, 700 km² ravagés. On est en pleine zone touristique. Et il y a 2 images que je voulais absolument vous montrer. D'abord, cette station de ski qui a eu l'idée d'utiliser ses canons à neige à pleine puissance. En fait, c'est surtout pour garder les installations boisées humides, le plus humide possible pendant l'incendie. Ou encore, tiens, dans les embouteillages des évacuations, ce petit moment de poésie. We'll be right back.
On continue à parler de musique puisqu'on rend hommage à Mikis Theodorakis.
Les Grecs, la Grèce pleure le compositeur qui avait 96 ans. On lui doit notamment la bande originale de Zorba le Grec, 1964, souvenez-vous. Alors, on reconnaît la Grèce à l'oreille, au Sirtaki aussi, bien sûr, la tradition. Mais dans les hommages aujourd'hui, parce qu'on a lu un petit peu, on dit de Mikis Theodorakis qu'il était un compositeur de musique classique et de musique populaire à la fois. Moi, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et regardez, on a retrouvé cet archive de 1967.
Nous voulons faire une musique, si vous voulez, symphonique, mais purement contemporaine, purement grecque, purement hellénique. Et pas du tout cérébral, pas du tout cérébral, qui est spontané, qui est en contact avec les racines, avec les origines. Parce que je crois que maintenant, la musique, qu'on dise classique, qu'on dise symphonique, il est en pleine crise, il n'a aucun rapport avec les racines. C'est une musique de laboratoire.
Alors évidemment, Mikis Theodorakis n'était pas que musicien, c'est une figure politique qui s'est éteinte, un symbole, une figure même de la résistance à la dictature des colonels.
Et avant même cela, pendant la guerre, il avait 20 ans, dans les années 40, quand il s'est engagé aux côtés des communistes grecs contre les nazis. Après, avec la dictature des colonels, il a été un résistant et un opposant farouche, reconnu dans le monde entier, très médiatisé, et ça aidait la résistance. Et quand la gauche est revenue au pouvoir, il a été député deux fois, il a même été ministre sans portefeuille, mais c'était un tel symbole de la liberté, et symbole de la liberté, il l'était aussi quand il disait, parce qu'il était très grand, une figure très imposante, il disait « du fait de ma haute taille, j'ai jamais pu m'incliner ».
Excellent. Et il a composé l'hymne du Parti Socialiste Français dans les années 66, 10, France Socialiste, puisque tu existes, etc. Le truc sur lequel François Mitterrand faisait son entrée dans les meetings.
Alors plus loin de la politique, à présent, un autre hommage. C'est presque un jumelage Paris-Athènes avec le plus français des Grecs ou le plus grec des Français, Nikos Aliagas. C'était sur son compte Twitter. Ses adieux à Mikis Theodorakis, c'était ce matin.
Et voilà pour cet hommage de Nikos Aliagas. De temps en temps, il m'arrive de faire un petit sirtaki quand je suis fatiguée le vendredi à 17h. Merci beaucoup Mathieu, merci Thomas Piketty. Une brève histoire de l'égalité. Au seuil, je me permets de l'offrir à Maï Traoré et je vous offre Maï Traoré. Beaucoup. Je suis noire mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme. Merci beaucoup à tous les deux d'abord.
Ma fille adore Thomas Piketty, donc
voilà. C'est parti du fan club. Dans un instant, Arnaud Ducré et Barbara Pravi sont sur notre plateau. Quelque chose à dire, Bertrand ?
Oui, joie de vivre, Babette. Nous sommes le 2 septembre. Ce soir, on parle donc de la rentrée.
Oui.
À tout de suite pour les actualités de Bertrand. Vu la story média de Mohamed Bouabsi, le dîner de C'est à vous.